RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie, la revue suivante, magazine culturel et ma langue. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Accepter la délégation de Hong Kong, le président Jokowi espère l'intensification de la coopération entre les deux pays. BNPB renforce la gestion communautaire des catastrophes. Augmenter la productivité du café, Gaiki et le gouvernement font une feuille de route à court terme. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président Joko Widodo a reçu mercredi après-midi le directeur général de la région spéciale administrative de Hong Kong, Carrie Lam, et sa suite au Palais Merdeka Jakarta. Lors de la réunion, le président Joko Widodo était accompagné d'un certain nombre de ministres, entre autres le ministre des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, et le ministre du Commerce, M. Enggar Tiasto Lukita. Dans son discours, le président Joko Widodo a déclaré que cette réunion renforcerait la coopération entre les deux pays, non seulement dans la coopération économique, mais aussi dans l'amélioration du contrat interpersonnel. Le président a souhaité que l'Indonésie et Hong Kong intensifient également leur coopération dans le domaine du droit. En rapport cela, le ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que l'Indonésie possédait actuellement un meilleur climat d'investissement qu'auparavant. Selon elle, cela devrait être utilisé pour augmenter la valeur d'investissement de Hong Kong en Indonésie. L'investissement de Hong Kong a également une position très importante parce que de temps en temps, au moins deux années consécutives, Hong Kong est le quatrième grand investisseur en Indonésie. Le président a discuté sur les questions d'investissement, notamment avec un meilleur climat d'investissement en Indonésie. À l'avenir, l'investissement de Hong Kong augmentera également. Par ailleurs, Carrie Lam, directrice générale de la région spéciale administrative de Hong Kong, a apprécié le gouvernement indonésien d'avoir accepté la délégation du gouvernement de Hong Kong ainsi que les futurs délégués d'affaires. Elle a souligné l'amélioration des relations de coopération entre les deux pays depuis la visite d'État du président Joko Widodo à Hong Kong en mai 2017. Selon Carrie Lam, la coopération entre les deux pays a augmenté non seulement dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine social et éducatif. Dans le cadre de la journée de préparation aux catastrophes commémorée le 26 avril, l'Agence nationale de gestion des catastrophes, ou BNPB, mène diverses activités. Le chef de BNPB, M. Willem Rampangile, a déclaré que la journée de préparation aux catastrophes est commémorée parce que l'Indonésie est l'un des pays les plus exposés aux catastrophes. Lors d'une évacuation en cas de catastrophe qui s'est tenue mardi, le 24 avril, au siège de BNPB, 215 millions de personnes vivent dans des zones sujettes aux tremblements de terre, aux inondations, tsunamis, éruptions volcaniques et glissements de terrain. Le nombre d'événements catastrophiques a augmenté l'année en année. En 2017, la catastrophe est survenue 2772 fois. Selon lui, la gestion des catastrophes est un problème complexe et multidimensionnel. Alors, il doit y avoir une coopération entre la société, le gouvernement et le monde des affaires. Il a souligné l'importance de la participation de la communauté à la gestion des catastrophes. Dans la gestion des catastrophes, BNPB est toujours basé sur la communauté.
Upaya penanggulangan bencana harus berbasis kepada masyarakat. Nah, inilah yang kita lakukan.
Les efforts de gestion des catastrophes doivent être basés sur la communauté. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Nous devrions être capables de construire une participation communautaire. D'abord, nous donnons toujours la socialisation sur la compréhension que notre pays est sujet aux catastrophes, et alors il doit comprendre le danger autour de lui. Après qu'il a compris lors de la réception d'un avertissement précoce comment réagir. Selon Willem, le mouvement de réponse aux catastrophes basé sur la communauté doit être national. Pour ce faire, lundi 24 avril, BNPB organise une série d'activités de la commémoration de la journée de préparation aux catastrophes, comme les efforts de construire la sensibilisation et la participation des communautés dans les gestions de catastrophes. Willem a dit on a survécu à la catastrophe de 34% en raison de la capacité individuelle, 32% des familles et 28% à cause des gens autour de lui. Par conséquent, la société joue le rôle le plus important dans la gestion des catastrophes. Le président de l'Association des exportateurs de café indonésien, Hutama Sugandi, considère que les produits de café indonésien ont la meilleure qualité dans le monde. Néanmoins, l'Indonésie a des difficultés liées à la faible productivité du café. Il a expliqué à la Voix de l'Indonésie, pendant 10 ans, la production de café n'est pas augmentée, alors qu'il y a une augmentation de 6 jusqu'à 7% de la consommation dans le pays. S'il n'y a pas d'augmentation, il y aura des difficultés d'exportation. La productivité est encore faible en raison du manque de pré-unissement des vieux cafières à l'âge de centaines d'années. La productivité par hectare n'est que 700 kg, tandis que le Vietnam a produit 3 tonnes par hectare. Il espère que le gouvernement pourra aider les agriculteurs à augmenter leur productivité à travers des crédits et des terres bon marché.
Pemerintah ini terakhir ini dalam satu tahun ini sudah mungkin sudah mulai menyadari.
Le gouvernement ce dernier de cette année a commencé à se rendre compte. Hier, nous avons été invités par le ministère de coordinateur de l'économie à faire une feuille de route pour augmenter notre production de café à travers l'augmentation de la productivité. Parce que la terre est assez grande, juste une faible productivité, comment la façon d'améliorer le court terme? Selon Hutama, à court terme, dans un effort pour augmenter la productivité, on peut être fait par le rajeunissement des vieilles semences. Si l'Indonésie peut augmenter la production du blé par hectare, il peut battre la production étatique du Vietnam. Pour le long terme, la terre sera élargie en 2017. Le montant total des exportations indonésiennes de café s'élève à 1,5 milliard de dollars américains et le café finit à 500 millions de dollars américains. Le type de café le plus populaire est le café Robusta. Mais en Amérique, elle est dominée par le café Arabica. ukur de trois dernières années, le café raffiné a considérablement augmenté de 150 millions de dollars américains jusqu'à 400 dollars américains. L'expansion du marché vers Singapour, le Moyen-Orient, et pour augmenter le taux d'exportation du café transformé. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La place de Panimbangan au village Bantiseraga, Régence Buleleng, est développée d'être objet touristique environnemental qui est l'entretien des récifs coralliens et l'élevage des tortues comme un effort pour augmenter la visite des touristes nationaux et étrangers à Bali Nord. C'est ce qu'a déclaré mardi le chef du village Bakti Seraga, Gusti Putu Armada à Singaraja. La place de Panimbangan possède un grand potentiel à développer comme un objet touristique environnemental. En plus des places en pente avec des eaux claires et des vagues calmes, les eaux du village ont des récifs coralliens et l'élevage des tortues. Pour maintenir les récifs coralliens, on a fait installation de récifs artificiels pour stimuler la croissance de nouveaux récifs coralliens. Pour l'élevage des tortues, depuis 2016, une équipe de secours aux tortues a été créée, composée de pêcheurs et environnementalistes. L'Indonésie a remporté le deuxième prix du programme de la Semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle 2018, qui s'est déroulée sous le mandat de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans un communiqué de presse reçu par Antara à Jakarta mercredi, à Amman, le gagnant du concours d'Indonésie est l'envoyé spécial du président pour le dialogue et la coopération interreligieuse et civilisation qui a proposé un programme sur le thème Rukun dan Bersatu Kita Satu ou en français S'attendre et s'unir, nous sommes un, a reçu un prix du roi jordanien Abdullah II bin Al-Hussein. Cette année, les juges de cette activité ont sélectionné 1232 programmes proposés de divers pays. Le premier champion a été décerné par une institution australienne, tandis que le troisième champion a été obtenu par l'Angleterre. L'ambassadeur d'Indonésie au Royaume de Jordanie et l'État de Palestine, Andy Rahmianto, qui a assisté à la cérémonie de remise des prix, a déclaré que le rôle de l'Indonésie dans la promotion de l'harmonie entre les communautés religieuses en Indonésie était devenu une reconnaissance mondiale. Les institutions sous les auspices des Nations Unies ont salué l'engagement de l'Indonésie à mettre en œuvre les objectifs de développement durable. Cela a été révélé lors d'une réunion de plusieurs agences des Nations Unies, entre autres le Programme alimentaire mondial, avec le chef de cabinet présidentiel Muldoko mardi. La réunion a discuté des options de collaboration pour promouvoir la réalisation d'un accord mondial qui est devenu un objectif commun jusqu'en 2030. Dans la discussion a également affirmé, en tant que poumon du monde, le gouvernement indonésien est préoccupé par le phénomène du changement climatique. La discussion vise à mettre l'accent sur la position de l'Indonésie en tant que pays qui accorde une attention particulière aux problèmes mondiaux. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire. Chers amis, l'activité du président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, était intéressante. Habituellement, tout en assistant à l'événement, le président Jokowi est entouré de troupes de la garde présidentielle masculin. Mais lors de la cérémonie inaugurale de l'exportation de Mitsubishi Expander au port Tanjung Priok, le président Jokowi Dodo a été vu entouré de membres de forces de sécurité du président des femmes. Les troupes des femmes ont été vigilantes pour escorter le président Jokowi tout au long de l'activité. Auparavant, lors de l'événement de la cérémonie de la journée de Kartini, qui s'est tenue au croisé de monuments nationaux, le garde-corps féminine était tout aussi vif et adroit pour protéger le président Jokowi. Bien sûr, il y a une raison particulière pour laquelle cette fois des femmes ont escorté le président Jokowi. Le député du secrétariat de protocole de la presse et des médias du président, Bey Mahmoudine, a déclaré que cette condition avait été rédigée pour commémorer la journée de Kartini, une journée qui symbolise la lutte pour l'égalité des droits des femmes dans ce pays. L'opportunité pour les femmes indonésiennes d'entrer dans toutes les professions en grand ouvert. Les proportions ont également augmenté. Regardez le cabinet de travail du président Jokowi. Il y a 8 femmes qui jouent un rôle dans le ministère de coordination et le ministère. La possibilité de répandre la souveraineté de l'État, de maintenir l'unité du territoire de l'État unitaire de la République d'Indonésie, fondée sur Pancasila et la Constitution 1945, et de protéger toute la nation indonésienne de la menace et de la perturbation de l'unité nationale et étatique est de plus en plus ouverte. Le nombre et la proportion des femmes membres du Corps de l'Armée nationale d'Indonésie, ou TNI, et de la Police nationale indonésienne, ou Polri, augmente également. La présence des femmes gardes de sécurité et des forces de l'ordre a été appréciée par le président Jokowi. Quand il a présidé l'appel ensemble avec 10 000 des femmes membres de l'Armée nationale d'Indonésie, la police féminine et toutes les composantes de femmes et en commémoration de la journée de Kartini récemment, le président a exprimé sa gratitude pour leur contribution au maintien de la défense et de la sécurité du pays de temps en temps. Le président a également fait part du rôle de plus en plus important et stratégique des femmes, car la société, le gouvernement et l'État avaient besoin d'un rôle plus grand pour les femmes. Ceci est également dû au rôle unique des femmes en fournissant un sentiment de sécurité et un service excellent à la communauté. En fait, la présence de la garde présidentielle féminine n'est pas nouvelle. Elles sont toujours présentes dans tous les événements d'État, notamment les événements qui présentent également la première dame Iryana Joko Widodo. Elles sont des membres du groupe A de la garde présidentielle qui ont le devoir d'assurer à tout moment la sécurité physique immédiate du président et de sa famille. La présence de garde présidentielle féminine gardant le président Joko Widodo lors d'un événement officiel hier est un symbole de l'existence des femmes indonésiennes dans le maintien de la défense et de la sécurité du pays. Nous espérons qu'ils inspireront les femmes indonésiennes à contribuer davantage à l'État unitaire de la République d'Indonésie et à maintenir la paix dans le monde. Comme le président Jokowi a exprimé l'espoir que les femmes membres du corps de TNI et Polri sont un symbole d'inspiration pour les filles indonésiennes où qu'elles soient. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 26 avril 1959, Ki Hadjar Dewantara est décédé. Raden Mas Suwardi Suryoningrat, ou mieux connu sous le nom de Ki Hadjar Dewantara, est une figure de l'éducation nationale. Il est né à Pakualaman le 2 mai 1889 et devient plus tard un activiste indépendantiste indonésien, chroniqueur, politicien et pionnier de l'éducation pour les Indonésiens autochtones de l'époque coloniale hollandaise. Il est le fondateur de Collège Taman Siswa, un établissement d'enseignement qui offre aux autochtones la possibilité d'obtenir le droit de l'éducation ainsi que le priyayi et le néerlandais. Dans le premier cabinet de la République d'Indonésie, il a été nommé ministre de l'éducation, de l'enseignement et de la culture. En 1957, il a reçu son doctorat honorifique de l'Université Gadjah Mada. Pour ses services dans l'éducation publique, il a été déclaré comme le père de l'éducation nationale de l'Indonésie et son anniversaire, le 2 mai, a été fait la Journée nationale de l'éducation. Il est mort à Yogyakarta le 26 avril 1959 à l'âge de 69 ans et a été enterré dans le parc Wijaya Brata. Le 26 avril 1964, le pays Tanzanie a été établi. Le 26 avril 1964, la République de Tanganyika et Zanzibar se sont unis dans un pays appelé Tanzanie. Le Tanganyika obtenait son indépendance de la domination britannique en 1961, tandis que Zanzibar gagnait son indépendance de la Grande-Bretagne en 1963. Le leader de la lutte pour l'indépendance de Tanganyika, Julius Nyerere, qui était élu premier ministre de ce pays, appelle à l'unification de Tanganyika et de Zanzibar. Après l'unification des deux pays, Julius Nyerere a été élu président et Karume vice-président. La Tanzanie est située en Afrique Est et limitrophe du Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, Malawi, Mozambique et Zaïre. Le 26 avril 1986, Tchernobyl a explosé. Le centre nucléaire de Tchernobyl est situé en Ukraine, qui ensuite fait partie de l'Union soviétique, a explosé le 26 avril 1986. Le centre nucléaire de Tchernobyl, qui est la principale source de pouvoir d'électricité de l'Ukraine, a explosé avec la propagation de substances radioactives qui sont très dangereuses. Le gouvernement soviétique a d'abord nié l'existence de cette explosion, mais finalement il a avoué, après avoir aperçu un nuage contenant des matières radioactives dans l'espace, et déclaré que l'explosion était due à une défaillance technique et le centre nucléaire de Tchernobyl a été suspendu pendant un certain temps. La catastrophe nucléaire est considérée comme le pire accident nucléaire de l'histoire et l'un des deux accidents qui ont été classés au niveau 7 sur l'échelle internationale des événements nucléaires. Un autre accident est la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi. Le nombre de travailleurs impliqués pour faire face à cette catastrophe, autour de 500 000 personnes, et dépensera 18 000 de roubles et l'influence économique de l'Union soviétique. Des milliers de résidents ont été évacués de la ville. Après l'effondrement de l'Union soviétique, le gouvernement ukrainien a décidé la cessation des activités du centre nucléaire au total en décembre 2000. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie, intitulée On a besoin d'une politique concrète pour résoudre les problèmes environnementaux. Des politiques concrètes sont nécessaires pour répondre aux différents problèmes environnementaux et forestiers qui se sont produits jusqu'à présent. a déclaré la ministre de l'Environnement et des Forêts, Madame Siti Nurbaya Bakar. À l'ère de l'administration du président Joko Widodo, diverses mesures correctives sont prises pour faire l'environnement et le secteur forestier soient vraiment du côté des citoyens. C'est ce qu'a dit Madame Siti Nurbaya lors de la commémoration du jour de la terre à Medan, Sumatra du Nord, dimanche. Le concept de politique de l'ère du président Jokowi a été mis au point à l'unification des deux ministères ayant un avantage de questions environnementales et forestières. Il y a de nombreux avantages avec l'unification du secteur de l'environnement et de la foresterie dans un ministère. Elle a souligné dans le cas d'un feu de forêt continue à son apogée en 2015, a poussé de nombreux changements fondamentaux au paradigme de la manipulation environnementale et forestière. Cela est évident pour la première fois depuis près de deux décennies. L'Indonésie a surmonté le problème des incendies de forêt et de terre et de la catastrophe des fumées. Cela ne peut pas être séparé de diverses politiques gouvernementales. Madame Siti Nurbaya Bakar a déclaré que le problème grave dans le passé, l'un d'entre eux était le problème de l'inégalité de la propriété foncière. Pendant le règne de Jokowi, diverses mesures correctives ont été prises dans le secteur forestier. Parmi celles-ci, il y a la réorientation de la gouvernance forestière, du concept de gestion du bois et de l'exploitation forestière, de l'industrie de bois à la gestion des forêts paysagères et la transformation en forêt sociale communautaire. Madame Siti Nurbaya Bakar a ajouté, les gens doivent être impliqués et doivent prospérer des produits forestiers. D'autre part, dans le processus actuel de l'industrie forestière, elle met également l'accent sur les règles pour effectuer des opérations qui assurent la durabilité de la production forestière. Les opportunités d'emploi du peuple indonésien sont également ouvertes avec la présence de la foresterie sociale. Grâce à ce programme, les permis ne sont plus accordés aux grandes entreprises, mais directement aux groupes communautaires. Les gens y ont accès et sont accompagnés par des acteurs de l'industrie forestière afin d'être prospères. Et les feux de forêt, la pollution par la fumée et la gouvernance des tourbières, les concessions forestières publiques, le concept de justice et l'accès à la gestion forestière sont des sujets importants des questions actuelles de gouvernance forestière et environnementale. La commémoration du jour de la terre à Medan est marquée par le lancement du programme Medan Zero Waste City 2020. L'événement est également animé par des carnavals, des cérémonies, la publication de la fresque de Medan Zero Waste City 2020 par la ministre Siti Nurbaya, des prix aux militants et écologistes, bazar, plantes et stades de divertissement des gens. Chers amis, c'était Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être fidèles à la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Magazine culturel. Et cette fois, nous allons vous présenter Danau Kembar ou le lac Jumo de la province de Sumatra Ouest. Restez toujours avec nous à la Voix de l'Indonésie. Vous pouvez écouter par longue courte ou bien par le site web à www.voinews.id. ou bien par l'application de RRI Play. Sumatra de l'Ouest est célébré pour sa beauté naturelle, qui est dans chaque district et ville. L'un d'entre eux est un quartier surnommé Negeri Seribu Danau, ou en français, le pays des mille lacs. C'est le district de Solok. Là-bas, il y a plusieurs lacs avec une beauté extraordinaire, comme par exemple Danau Kembar ou le lac Jumo. Le lac Jumo est situé dans le quartier de Bungo Tanjung à Alahan Panjang dans le district de Solok, Sumatra de l'Ouest. Le paysage est très beau grâce aux montagnes de Talang et aux jardins du thé de Salak. En raison de son emplacement sur le plateau, cette zone touristique possède un air très froid. Le nom du lac Jumo est originaire en raison de son emplacement adjacent et les deux lacs d'apparence identique sont situés dans la région de Bukit Barisan. Les gens de Sumatra de l'Ouest le connaissent sous le nom du lac Diateh qui signifie « le lac au-dessous ». La distance entre ce lac et la ville de Padang, Sumatra Ouest, environ 60 km. Si vous voulez voir la similitude entre les deux lacs, montez au sommet de la colline entre le lac au-dessous et le lac au-dessus. La colline fait toujours partie de Bukit Barisan, tandis que si vous voulez entourer le lac au-dessous, vous pouvez monter sur un bateau à moteur appelé kapal motor antar nagari que les agriculteurs locaux utilisent. Le dimanche ou bien les jours fériés nationaux, le navire sert spécifiquement la route touristique. Quand au lac au-dessous, vous ne pouvez pas l'entourer. À quoi ressemblent les deux lacs au-dessous et au-dessous? Comment sont-ils positionnés? Ce qui est clair, ces deux lacs sont proches et nous pouvons profiter tous les deux à la fois. Quand nous sommes dans le lac au-dessus est comme sur la colline. Lorsque nous voulons voir le lac au-dessus, nous pouvons le voir sur une colline. C'est plutôt difficile à comprendre. Pour cela, pour se débarrasser de votre curiosité, il faut mieux qu'un jour vous veniez et prouviez vous-même la magie qui de cet endroit. L'eau de ce lac est très claire. De près, nous pouvons réfléchir, tandis que de loin, les eaux sont comme le bleu. Si vous êtes dans la ville de Padang et que vous voulez voyager au lac Jumo, vous avez besoin d'environ 1h30. Avec le voyage en bus majorant Alahan Panjang, le district de Solok, vous descendrez une route sinueuse à 60 km. À tout au long du chemin, vous pouvez voir une vallée obscure dans la zone forestière de Bung Hatta. Si vous êtes déjà près du lac Jumo, la campagne panoramique et les magnifiques jardins de thé vous accueilleront. Autour du lac Jumo, vous trouverez également de nombreux vendeurs de fruits de la passion, des kakis, des fraises et aussi des aubergines hollandaises ainsi que des commerçants de fleurs en pot. Ce qui rend de plus en plus les touristes à l'aise, c'est le son de la musique de Saluang. Saluang est un instrument à vent typique de Minang. Chers amis, voilà l'édition magazine culturel pour aujourd'hui intitulée Les lacs jumeaux de la province de Sumatra de l'Ouest. Merci à tous et à bientôt.
La voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
La voix de l'Indonésie à Jakarta dans le programme Malangue comme média de préserver la diversité des langues locales en Indonésie. Chers amis, nous nous rencontrons de nouveau dans le programme Malangue. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la province Gorontalo afin de connaître plus loin la langue Suawa. La communauté Suawa utilise un mélange de la langue indonésienne, la langue Gorontalo et la langue Suawa dans la vie quotidienne, comme aux écoles, au marché et autres. La langue Suawa n'est 100% utilisée qu'à certaines occasions, comme les funérailles, l'akikah et les activités coutumières. Selon la communauté Suawa, les activités coutumières seront plus sacrées quand on utilise la langue Suawa. Selon une étude de la vitalité de la jeune pour le développement du langage, la langue Suawa est classée stable mais en danger. Parce qu'en dehors de l'événement traditionnel, la position de la langue Suawa est souvent décalée avec la langue des migrants, à savoir la langue indonésienne et la langue Gorontalo. Un exemple est au marché. Les conversations entre les acheteurs et les commerçants sont souvent parlées dans la langue Gorontalo. Ensuite, des conversations entre parents et enfants utilisent souvent la langue indonésienne. Cela montre que le processus de régénération de la langue Suawa a été réduit. C'est quelques exemples du mot dans la langue Suawa. Boleh, boleh, en français fatigué. Mokaraja, mokaraja, en français travailler. Moberenti, moberenti, en français arrêter. Mohasili, mohasili, en français payer le taxe. Chers amis, c'est l'exemple de phrase en langue Suawa. Ihsan mo boleh, ihsan mo karaja. Ihsan mo boleh, ihsan mo karaja. En français, Ihsan est fatigué, s'il travaille. Ihsan do mo berhenti au karaja. Ihsan do mo berhenti au karaja. En français, donc, Ihsan veut arrêter de travailler. Ihsan doja mohasili sababu ja okaraja. Ihsan doja mohasili sababu ja okaraja. En français, Ihsan ne va pas payer les taxes parce qu'ils ne travaillent pas. Si vous avez des critiques et des suggestions, s'il vous plaît, écrivez-nous à voi@voinews.id. voi@voinews.id ou à notre page de médias sociaux Facebook The Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia. @voiindonesia. C'était le programme Ma langue, comédie de préserver la diversité des langues locales en indonésien.
La Voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir chers amis de la Voix de l'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions en streaming à www.voinews.id. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse qui s'appelle Diana Nasution. Voici sa première chanson intitulée Je te déteste, mais tu me manques.
Sekedar penghibur
Chers amis, c'était la chanson de Diana Nasution intitulée « Je te déteste, mais tout me manque ». Cette chanson a été composée par Rinto Harahap. Elle est l'une des chansons qui a popularisé de Diana Nasution dans le monde musical. Cette chanson raconte l'histoire d'une femme qui aime son amant. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons de Diana Nasution intitulées « Les nuits froides ». Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie à Jakarta dans le programme musical chanté par Diana Nasution. Elle est l'une des chanteuses légendaires d'Indonésie, née à Medan au nord de Sumatra. Elle commence sa carrière depuis les années 1970 en formant un groupe de duo avec sa sœur qui s'appelle Rita Nasution. Ce groupe duo appelé Nasis ou Nasution Sister. Après Rita Nasution s'est mariée, elle a décidé de faire carrière en solo. En 1977, Diana Nasution rejoint Melky Goeslaw après le Festival National de Chanteurs. Le duo Diana et Melky ont remporté la deuxième place grâce à la chanson Bila Cengkeh Berbunga et Malam Yang Dingin. Bon, chers amis, avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter les deux dernières chansons intitulées Ne laissez pas et Ce n'est pas à moi. Tous les deux sont chantés par Diana Nasution. Merci à tous et au revoir.
Hujan turun membasahi bumi atau bulan yang tiada berseri. Oh, namun jangan kau biarkan ku seorang.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes. Ainsi, ça termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.